quand les dieux rôdaient sur la terre. Il y a très longtemps, en Grèce, un jour, Zeus est devenu le roi de tous les dieux. Ça n'a pas été facile. Nous avons raconté cette prise du pouvoir la semaine dernière dans l'épisode « Zeus le conquérant ». Il a fallu beaucoup de ruses et de violences pour que Zeus détrône son père, le dieu Cronos, fils de ciel. Cronos ne voulait évidemment pas lui laisser la place. La lutte a été sans merci. Une longue guerre de 10 années a embrasé toutes les régions du monde. Zeus, avec ses frères et sœurs, a fini par écraser la génération de leur père, Cronos, et ses titans. Vaincus, les titans Cronos en tête ont été jetés et enfermés par Zeus dans l'immense gouffre du Tartare, loin sous la terre. Puis Zeus a dû mener une seconde guerre, cette fois contre un monstre affreux, issu de ce même Tartare, Typhée. On l'appelle aussi Typhon. Il a donné son nom aux tempêtes gigantesques qui déchaînent la mer et détruisent les récoltes. Zeus, tout seul cette fois, a encore gagné. L'ordre règne, ou peut régner. Un tout nouveau pouvoir va se mettre en place.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Heinz Wiesmann, philosophe.
Quand Zeus est suffisamment fort, il va prendre le pouvoir. Et c'est à ce moment-là que la tentation d'Uranos se précise. Est-ce qu'il va maintenant faire comme son père et son grand-père et établir un pouvoir absolu? Et c'est là que Terre va lui dire, écoute, si tu fais ça, tu vas être renversé comme tu as renversé ton père. Ne te mets pas dans cette situation. Tu dois accepter que le pouvoir soit partagé. Et grâce à ce partage, tu auras un pouvoir suprême qui consiste à garantir le partage. Voilà le rôle de Zeus.
Zeus, maître du ciel, gouverne. Il faut dire qu'il avait le nom qui allait avec le job. Faisons un tout petit peu de grec. Les Grecs ne disaient pas Zeus, mais Zdeus. Le mot veut dire le lumineux, qui a l'éclat du ciel. Il vient d'une racine indo-européenne signifiant la brillance, que l'on trouve par exemple dans le mot latin pour dire jour, dies, ou dans le nom de Jupiter, ainsi que dans Deus, d'où vient directement notre Dieu. Dieu et Zeus portent le même nom. Les Grecs aimaient faire varier l'essence du nom de Zeus. Ils faisaient confiance au langage pour y entendre des vérités profondes. Quand le nom de Zeus est complément d'un verbe et non pas le sujet de la phrase, quand on dit « je supplie Zeus », « je prie Zeus » ou « je maudis Zeus », ce qui était plus rare et risqué, le nom de Zeus devient « dia ». Or, cette forme rappelle par les sons la préposition qui en grec signifie « à cause de », qui désigne la cause d'un événement, la préposition « dia ». Si on fait de Zeus un complément de nom, comme dans « la volonté de Zeus » ou « le fils de Zeus », on a « dios ». Cela, toujours par les sons, rappelle l'expression « ce à cause de quoi »« diho ». Zeus est la cause, le principe explicatif de toute chose. Les poètes, des Homères, ont très souvent joué sur ce lien sonore entre les mots.
« Nom de Zeus
je casse !»
J'ai cru mourir de peur.
Ils ont une façon de vous souhaiter la bienvenue, Aegalia.
C'était peut-être des amoureux de Deianira qui voulaient évincer un prétendant.
Tu vas l'épouser?
Oui, je vais l'épouser. Nous avons tellement attendu que Zeus lui-même, cette fois, ne pourrait pas empêcher notre mariage.
Une autre forme de Zeus est Xena, au génitif Xenos. Comme des poètes l'ont souligné, ces formes rappellent le verbe vivre, Xen, de la même famille que notre zoologie. Zeus est la cause. Il est aussi la vie, dans sa richesse, sa prolifération, sa réussite contre la mort, contre l'effacement. Le langage, pour les Grecs, était à la fois inépuisable et précis. Mais il faut dire tout de suite que si les Grecs prenaient un extraordinaire plaisir à analyser les mots, à multiplier leur sens, plaisir qui est à la base de tant de mythes et de poésie, ils étaient conscients des faiblesses du langage. Le langage n'était pas tout pour eux, ils ne s'y vautraient pas. Après tout, ce Zeus, dieu souverain, parfois terrible et parfois bienveillant, on ne savait pas comment il s'appelait en vrai, comment il se nommait lui-même. Si on multipliait ces noms Zeus, Dios, Xena, et si on multipliait les sens de ces noms, c'est parce qu'on espérait bien, avec ces tentatives, attraper au moins quelque chose de lui et établir un contact. On espérait que ça lui plairait, mais on n'en savait rien. Dans une tragédie du poète Eschyle, Agamemnon, un cœur de vieux savant érudit et très prudent s'adresse ainsi à Zeus.
Zeus, quel qu'il soit, s'il aime qu'on l'appelle de ce nom, je l'invoque sous ce nom-là.
Revenons aux affaires de Zeus. Il a gagné. Que fait-il une fois au pouvoir, une fois qu'il est le patron? S'il y a eu ces deux guerres effrayantes qui ont mis à mal l'ensemble du cosmos, c'est que le passage de Cronos, son père, à Zeus, devait tout changer, devait être une révolution totale. Et ça a été le cas. Zeus a inauguré une nouvelle manière de gouverner qui nous en dit long sur ce qu'est la politique, sur ses forces, sur ses limites. Son père Cronos et son grand-père Ciel, Uranos, avaient commis de grandes erreurs, les mêmes, et sont tombés pour cela. Ils pensaient tous les deux que rien ne devait bouger, qu'ils pouvaient concentrer tout le pouvoir pour toujours. D'abord, ils refusaient que leurs enfants puissent naître. Ils les enfermaient dans une cachette de la terre où ils les avalaient. Les mères se sont révoltées et ont gagné. Les enfants sont sortis de l'ombre. Les pères ont chaque fois été détrônés. Cronos, qui avait beaucoup de frères et de sœurs, les titans, avait été un peu plus avisé que son père, le ciel. Il avait procédé à un partage du pouvoir, mais ce partage était imparfait. Il a laissé de côté plusieurs dieux puissants, sans doute parce qu'ils étaient trop puissants et que Cronos ne voulait pas de rivaux dans son gouvernement. Il l'a payé. Ces dieux oubliés ont aidé Zeus à l'écraser. Zeus va tout faire pour éviter ses erreurs. Il commence par procéder à un réel partage complet des fonctions politiques et des dignités au sein de la cité qu'est l'Olympe. Chaque dieu, chaque déesse aura sa fonction, son honneur, clairement définie. Le pouvoir doit se partager. Le poète Hésiode, dans son poème sur la naissance des dieux, la Théogonie, nous dit que le partage opéré par Zeus était parfait, abouti, ce qui n'était pas le cas chez les titans.
Quand les dieux bienheureux eurent fini leur guerre et réglé par la force leur querelle avec les titans sur les honneurs divins, ils écoutèrent les avis sensés de terre et poussèrent Zeus l'Olympien, le dieu au vaste regard, à être le roi et le seigneur des immortels. Zeus leur distribua correctement les honneurs.
Le travail politique de Zeus consiste dès lors à veiller à ce que aucun dieu, aucune déesse n'ait un appétit titanesque et cherche à avoir plus que sa part. La foudre de Zeus sert à dissuader ou à punir les dieux trop gourmands. Le monde est bien cadastré, surveillé. La répartition des pouvoirs, les règles de cette répartition sont connues, acceptées, publiques. Un véritable ordre politique est mis en place. Dans son Iliade, Homère donne une version différente de ce partage politique initial. Il se fait non par décision de Zeus, mais par tirage au sort. Après tout, Zeus n'est que l'un des enfants de Cronos, comme les autres. Pour les Grecs anciens, le tirage au sort, que beaucoup voudraient réintroduire dans notre République, ne signifie pas le hasard, l'aléatoire, au contraire. Il signifie que la décision qui sera prise était nécessaire, qu'elle correspond à l'ordre des choses. Dans la démocratie athénienne, où il était beaucoup pratiqué, le tirage au sort signifiait que les dieux étaient bien à l'œuvre dans le résultat. Le tirage au sort dans l'Iliade concerne les trois dieux mâles nés de Cronos et de Rhea, à savoir Hadès, Poséidon et Zeus. Les divinités féminines ont visiblement été tout de suite écartées de l'opération, c'est comme ça. Il s'agit de se répartir les trois domaines les plus importants du monde. Le ciel, la mer, le monde souterrain. La terre, avec le mont Olympe, est exclue du partage. Elle doit rester commune à tous les dieux. Le résultat est très clair. Zeus obtient le ciel en accord avec son nom. Poséidon la mer. Hadès, dont le nom veut dire l'invisible, obtient le monde souterrain, les enfers. Ce partage solennel et définitif est rappelé par Poséidon lors de l'un des épisodes cruciaux de la guerre de Troie. Les deux frères, Poséidon et Zeus, sont alors en opposition violente. Poséidon a lancé une offensive contre les Troyens pour soutenir les Grecs qui sont en difficulté. Zeus, qui à ce moment de la guerre protège les Troyens, veut à tout prix arrêter Poséidon. Il envoie Iris, sa messagère rapide comme le vent, pour prévenir son frère et pour le menacer.
À Iris, Zeus adressa des paroles ailées.
Mets-toi en route. Rapide Iris. Au seigneur Poséidon, annonce chacune de ces choses sans faire de fausse annonce. Commande-lui de cesser combats et batailles et de rejoindre les tribus des dieux ou l'eau de la mer divine. S'il ne veut pas obéir à ses mots et les compte pour rien, qu'il pense dans son esprit et dans son cœur à ne pas, malgré sa puissance, entreprendre de résister à mon assaut. Car je prétends le surpasser de beaucoup par la force et le devancer par la naissance. Mais son cœur n'est pas troublé de parler en égal avec moi qui, pourtant, en terrifie tant d'autres.
Il dit cela, et la vive Iris au pied de Bourrasque ne désobéit pas.
Iris transmet le message à Poséidon, le frère de Zeus. Poséidon proteste avec rage au nom du partage qui a eu lieu entre les trois frères.
Poséidon, l'illustre dieu qui secoue la terre, dit à Iris, très indigné.
Malheur, Zeus a grande valeur, mais il a parlé au-delà des bornes, puisqu'il veut me contraindre de force, moi qui ai même honneur que lui. Nous sommes trois frères nés de Cronos que Rhea a mis au monde. Zeus, moi, et en troisième, Hadès, qui règne sur ceux d'en bas. Toutes les choses ont été partagées en trois. Chacun a eu son lot d'honneur. Moi, Poséidon, j'ai gagné d'habiter pour toujours la mer grise quand les sorts furent tirés. Hadès a gagné les ténèbres brumeuses. Zeus, le vaste ciel dans l'azur et les nuages. La terre, quant à elle, est commune à tous, ainsi que le grand Olympe. Je ne vivrai donc pas selon le cœur de Zeus. Qu'il reste tranquille malgré sa force dans le troisième lot qui est le sien. Que jamais il ne cherche à m'effrayer avec ses bras, me croyant vil.
Dans l'Iliade, les trois frères, Zeus, Poséidon et Hadès, sont donc égaux en dignité. Le lieu où ils agissent en interaction avec les humains, la Terre, là où se déroule la guerre de Troie, leur est commun. Comme leur est commun le lieu où ils délibèrent entre eux, l'Olympe. Ces lieux n'appartiennent à aucun des trois. On a là le modèle de ce que sera la cité grecque, jusqu'à l'Athènes démocratique. La répartition des pouvoirs, des fonctions, entre les citoyens, entre les groupes, entre les institutions, doit se faire sur le mode d'un partage clair, dont les règles sont publiques, reconnues par tous. Les lieux où les citoyens agissent ensemble, et ceux où ils délibèrent pour savoir quelles actions ils vont mener, assemblées, tribunaux, sont communs, ouverts à tous, comme le sont la Terre et l'Olympe pour les trois frères. Chacun a le droit d'y intervenir et de parler, à partir de sa position légitime et reconnue. La répartition équitable et stable est la norme à respecter. Elle est le fondement de la loi. Le mot qui désigne la loi en grec, nomos, signifie au départ le partage.
dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de la Combe évoque le dieu des dieux, Zeus.
Il y a 12 dieux de l'Olympe. Les 3 plus grands sont frères, Zeus, Poséidon et Hadès. Ils sont parvenus au pouvoir en renversant leur père, Cronos. Ils l'ont découpé en petits morceaux. À plusieurs occasions, ils sont descendus sur la terre et ils ont... Comment je vais dire ça ?
Flirté ?
Ils ont flirté avec des mortels. Les enfants nés de ces unions étaient moitié dieux et moitié humains.
Zeus, chez Homère, est donc l'égal de ses deux frères, Poséidon et Hadès. Poséidon est donc dans son droit quand il proteste contre l'intervention de Zeus sur des affaires qui concernent le domaine qui leur est commun à tous, la terre, là où les Grecs et les Troyens se font la guerre. Mais Zeus a un petit plus d'autorité par rapport à Poséidon et à Hadès. Ce petit plus est décisif. Zeus est l'aîné, le premier-né. Et Iris, sa messagère, avertit Poséidon en colère que Zeus pourrait lancer contre lui les Erinies, ces divinités affreuses et implacables, terribles et cruelles, qui dans les familles protègent les plus anciens.
La vive Iris, au pied de Bourrasque, répondit à Poséidon :
Est-ce ainsi, ô dieu aux cheveux sombres qui ébranle la terre, que je porterai à Zeus une parole rude et puissante ? Ne changeras-tu pas ? Il change les cœurs des êtres nobles. Tu sais que toujours les Erinies accompagnent les aînés.
Poséidon s'incline, en grognant. Cette scène de l'Iliade est capitale. Elle fait ressortir, je crois, le problème central que rencontre le monde tel qu'il s'organise désormais avec Zeus. C'est un problème que les poètes anciens n'ont cessé de poser et d'aborder. Le monde, tel qu'il résulte du partage entre les dieux, est ordonné, solide, rationnel. Chaque dieu a sa fonction. On a un monde bien stable, géométrique. Mais comment faire pour que ce monde vive, bouge, change en fonction du temps qui passe ? Quels événements nouveaux peut-il accueillir, susciter ? C'est là qu'intervient le privilège que possède Zeus en tant que fils aîné. Vous vous souvenez, Zeus est l'aîné de ses frères, le né en premier, puisque Cronos l'a recraché en premier, ou plutôt parce que Cronos a recraché en premier la pierre qui remplaçait Zeus. Et Zeus est aussi le dernier né, puisque cette pierre a été avalée en dernier par son père Cronos. Zeus est à la fois le dernier et le premier dans l'ordre du temps. Il est donc le mieux placé, mieux que les autres, pour décider du temps qui passe, pour décider de ce qui va advenir. C'est son plus grand souci. Comment à la fois ouvrir et maîtriser le temps sans se laisser surprendre, sans se laisser balayer par lui, comme l'a été son père. Les trouvailles de Zeus sont surprenantes. Ça commence par des mariages. Zeus épouse, et beaucoup. Ses nombreux enfants venus d'ici ou là auront la charge d'apporter du nouveau et de le répandre. La première épouse de Zeus s'appelle Intelligence. C'est Métis, l'une des nombreuses filles du dieu océan. Plus savante que tous les dieux et que tous les mortels réunis, elle est la pensée agile, technicienne, qui sait trouver des issues même là où tout paraît bloqué, insoluble. Elle invente et trouve. L'homme qui la connaît le mieux est Ulysse. Ce n'est pas étonnant que cette intelligence métisse soit une fille du dieu océan. L'océan, pour les Grecs de cette époque, était un grand fleuve circulaire qui tourne autour du monde, qui le borde. Il contient tout dans son immense boucle, comme il rejoint son point de départ dans un cercle parfait. Homère disait qu'il est un fleuve au cours inverse. Depuis sa source, il court vers sa propre source, qu'il finit par rejoindre après avoir fait tout le tour de la terre. Le fleuve océan est complet, parfait, comme Zeus, qui est à la fois premier et dernier né. Métis, l'intelligence rusée, est bien la fille d'océan. Elle ne se laisse pas impressionner par ce qui est immédiatement sous les yeux. Elle fait le tour des choses et trouve un passage. Elle sait anticiper le temps. Mais elle est dangereuse. Zeus, comme d'habitude, la désire, couche avec elle. Mais il y a danger. Les grands-parents de Zeus, terre et ciel, lui disent qu'elle aura de lui des enfants plus intelligents et plus forts que leur père. Toujours la même histoire des conflits de génération. Que faire ? Métis est déjà enceinte de Zeus. L'histoire de Ciel et de Cronos risque donc encore de recommencer. Prudent. Zeus se fait plus malin que la déesse Intelligence. Il l'enjôle, la séduit avec des mots. Et d'un coup, il l'avale.
Jean-Pierre Vernant.
Zeus est un dieu qui, pour être roi des dieux, a dû se faire tout entier ruse, prévision, de façon à ce que personne ne puisse le surprendre. Comment il a fait ? Il a épousé Métis, qui est ce type d'intelligence, et non seulement il l'a épousé, mais il l'a avalé pour que toute la Métis du monde, toute l'intelligence qu'il peut y avoir dans l'univers, il la possède en quelque sorte à l'intérieur.
Métis continuera à lui donner des conseils avisés, mais elle le fera depuis le fond du ventre de Zeus. Elle aura un enfant, mais qui naîtra de Zeus et non d'elle. Ce sera Athéna, la déesse guerrière et futée. Elle sortira avec toutes ses armes du crâne de Zeus, crâne qu'Héphaïstos aura d'abord obligeamment fendu avec une hache. Zeus n'en reste pas là. Il continue à épouser des épouses qui lui permettent d'envisager sereinement le futur. Pour contrôler le temps dans toutes ses dimensions, le présent, mais aussi le passé et l'avenir, il épouse des déesses d'une génération avant lui, des titanes. Il renoue avec le passé pour procréer l'avenir. Là, on peut vraiment se poser des questions. C'est plus que surprenant. Les titanes ont été vaincues avec les titans, leurs frères, au terme d'une guerre atroce. Elles ont été jetées dans le Tartare, à 1000 lieues sous la terre, dans un lieu bien clos, fermé par des portes de bronze. Comment Zeus peut-il les épouser ? En lisant les mythes, nous devons perdre nos habitudes de lectrice et de lecteur de romans, et notamment de romans policiers. Dans les romans, les événements sont censés s'enchaîner les uns aux autres de manière linéaire, à partir d'une situation initiale posée comme origine. Les récits anciens, et notamment les mythes, ne suivent pas ce schéma linéaire. Les mythes pointent ce qui est important, ce qui, sur le moment, fait sens, impressionne, puis ils passent à autre chose. Ce qui compte pour eux, ce n'est pas de poser un début, une situation initiale et d'en tirer les conséquences logiques. Ce qui compte, c'est la fin elle-même, ce qui finalement advient et devait advenir, la fin de l'histoire, posée comme un destin, comme nécessaire. Tout ce qu'il y a avant éclaire cette fin. Pour cela, les récits font briller toutes les facettes possibles, sans souci de continuité. Ils sont un miroitement. C'est le cas ici. Il y a une guerre violente avec les titans, une rupture. Mais le vainqueur, Zeus, en épousant des titanes, des grandes femmes du passé, cherche à intégrer dans son monde nouveau tout ce qui existait déjà et qui peut lui être utile. Comment on passe d'un moment à l'autre, d'une guerre sans pitié, à ces noces répétées, on ne le sait pas et ça n'a pas d'importance. L'important est que ça ait lieu. La première des deux titanes qu'il épouse est Thémis, la déesse que nous assimilons un peu vite à la loi. Elle a un rôle double. Elle est la divinité de la règle, celle qui pose les normes, qui pose tout ce qui est contraignant dans une société. Elle pose ce qui doit être. Mais elle est aussi celle qui pose ce qui va nécessairement être, ce qui va arriver. Elle est prophétesse. Le verbe « poser » en grec se dit avec la même racine que « thémis ». « Je pose, j'établis » se dit « titémi ». En français, on a de la même famille « thèse », la position que l'on soutient, sans parler de l'antithèse ou de la synthèse, toujours laborieuse à trouver. Zeus aura avec Thémis deux séries d'enfants, chaque fois trois filles, qui correspondent à ces deux aspects. Les trois premières seront celles qui mettent en place, qui posent les bonnes conditions du droit et de la politique dans les groupes humains. Sans elles, il n'y aurait pas de société. Les trois autres sont celles qui établissent les destins des mortels. Les trois premières s'appellent les saisons, les heures. Oraille. Ces filles sont la bonne répartition, Eunomia, justice, Dike, et la paix, Eirene, la florissante, qui a donné le prénom Irène. Grâce à elles, les humains peuvent vivre en bonne entente. S'il y a un conflit, la justice, Dike, saura ramener la concorde. Il faudra que les juges prononcent des verdicts bien droits, justes. Le nom de la justice, Dike, signale cette action de dire le droit, de juger correctement, Dike, et de la même racine que le verbe latin qui signifie « dire »,« dicere ». Le second groupe de filles engendrées par Thémis et Zeus est plus qu'étonnant. Ce sont les Moires, les divinités qui filent le fil des destins des êtres humains, celles que les Romains appelaient les Parques. Elles donnent aux hommes et aux femmes ce qu'ils doivent vivre, ce qui leur revient sur terre, leur part de ce qui est bon et leur part de ce qui est mauvais. Et quand il le faut, enfin, quand elle pense qu'il le faut, elle coupe le fil des existences, irrémédiablement. Le temps est bien maîtrisé avec ses premières épouses, Mathis, la visée, et Thémis, qui fixe le droit et pose les destins. Mais il reste à transformer le temps vécu par les dieux et aussi par les humains en histoire, en récit. Il faut que le sens de tout ce qui s'est passé soit communiqué, mémorisé, réfléchi. Zeus épouse alors la titane Mémoire, Mnémosyne. Ils s'accouplent pendant 9 nuits, loin des autres dieux, mais pas trop loin de l'Olympe quand même. Mémoire met au monde les 9 muses, ces jeunes chanteuses qui aiment les fêtes et les plaisirs, qui suscitent les poèmes. Elles ont leur maison et leur piste de danse juste en dessous des cimes de l'Olympe, juste à côté de la maison des grâces et du dieu Désir. Les muses, filles de Mémoire et de Zeus, sont l'harmonie. Leur voix suscite l'amour. Elles savent chanter la totalité de ce qui existe, ce qui a lieu, ce qui aura lieu et ce qui a eu lieu. Avec un tel chant complet, parfait, universel, elles charment Zeus, puisque c'est lui qui, par la force de son esprit, a fait se dérouler toutes ces choses.
Les muses réjouissent le puissant esprit de Zeus dans l'Olympe. Quand elles chantent ce qui est, ce qui sera, ce qui a été, leur voix crée l'harmonie. De leur bouche coule sans fatigue une voix qui donne le plaisir. Les chambres de leur père, Zeus au grand fracas, s'illuminent de rire quand, pareil au lys, la voix des déesses se répand. Les cimes de l'Olympe neigeux résonnent, ainsi que les chambres des immortels. Leur voix ne meurt pas.
Quand elles chantent pour les humains, ces filles de Mémoire, les muses, apportent l'oubli. Non du passé divin ou humain qu'elles ne cessent de chanter, mais l'oubli des malheurs et des angoisses, au moins cela.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Si je ne m'abuse, je sens qu'on m'accuse. On dit que j'abuse de coups d'arquebuse. Pardon, mille ex. Je nie, je récuse, je le dis sans ruse. Je cherche des muses, muses, des muses, ces filles aériennes, muses, des muses qui dressent leurs antennes, muses, des muses sur la boîte crânienne des poètes un peu maudits, muses, des muses célestes paysannes, muses, des muses qui vous sèment dans l'âme, muses, des muses, la graine d'un sésame, ouvre-toi sur l'infini. Je ne m'abuse, je sens qu'on m'accuse. On dit que je muse ou que je m'amuse. Pardon, mille excuses. Si cette vie muse, c'est parce que j'en use à chercher des muses. Muse des muses, ces déesses volages, muse des muses qui vous redonnent l'âge, muse des muses. Bel enfant sauvage qui bondit dans les éclairs, muse des muses, ces drôles d'aviatrices, muse des muses, frôlant au précipice, muse des muses, de toutes leurs hélices, vous parlez d'un courant d'air, comme Zola j'accuse, les docteurs m'abusent, les cervelles obtuses, j'en appelle aux muses, muse des muses, ces belles noctambules. Légère comme des bulles, muse, des muses, tout un conciliabule au sommet du paradis. Que d'autres s'amusent, entourés de buses, avec les amuse-gueules de chez Bocuse. Mais moi, si j'écluse des champagnes qui fusent en d'obscures cambuses, au moins j'ai l'excuse. Je cherche des muses.
Oui, allô, Zeus à l'appareil. Oui, passez-moi un cyclope uranien. Allô, Argès ? Ouais, j'ai des problèmes de foudre, là. Il y a les éclairs qui se déchargent hyper vite. Je suis obligé de les brancher sur secteur 4 fois par jour. C'est pas du tout pratique. Bah ouais, ouais, j'en ai besoin tout le temps. Comment ça, c'est plus sous garantie ? Vous vous foutez du monde, j'espère, au prix où... Ah bah, ils ont raccroché.
Oh, ça, c'est super énervant.
C'est de pire en pire, l'Antiquité.
Zeus multiplie ses noces. Finalement, il épouse sa sœur Héra, la souveraine, qui sera l'épouse légitime. Les frères et les sœurs de Zeus font comme lui. Ils couchent avec d'autres divinités. Et aussi et surtout avec femmes et hommes mortels, pour produire des demi-dieux. Le monde est plein de dieux, de héros, d'héroïnes. Il semble devoir fonctionner dans une belle diversité. Mais ce monde n'est pas encore parfait. Il est encore trop contraint, trop prévisible. Chaque divinité a sa fonction bien définie. Les héroïnes et les héros ont chacun et chacune leur destin fixé par les mois. Il manque le désordre, le n'importe quoi, l'aléatoire, le totalement imprévu, à savoir ce que nous vivons tous les jours. Zeus a vu le problème et trouve la solution. La solution de Zeus, c'est Hécate. Cette déesse était là avant lui. Les titans lui avaient accordé beaucoup de privilèges, sur la terre comme sur la mer, notamment celui de faire ce qu'elle voulait avec les humains, les aider, les enrichir ou les ruiner, à sa guise. Elle est le caprice divin. Zeus la maintient dans ses privilèges et décide même de lui donner une très grande place dans son nouveau monde. Il l'honore, plus que toutes les autres divinités et tous les dieux lui rendent hommage. Hécate rôde au milieu des humains, partout, et fait leur fortune ou leur infortune, comme elle veut, selon son bon plaisir.
Qui elle veut, Hécate est près de lui et l'aide. Sur la place publique, se distingue dans la foule qui elle veut. Et quand pour la guerre destructrice d'hommes, les hommes se cuirassent, la déesse est là, près de qui elle veut, empressée, et lui fait toucher la victoire et lui donne la gloire. Ceux qui travaillent la mer bleutée, bouillonnante et pénible, sans effort, la déesse glorieuse leur fait toucher une prise nombreuse. Et sans effort, elle la leur enlève quand elle apparaît, si elle le veut dans son cœur. Elle est bonne dans les étables avec Hermès pour accroître le gain. Les troupeaux des vachers et le vaste bétail des chèvres, les troupeaux des moutons laineux, si elle le veut dans son cœur, de maigres, elle les rend imposants, de nombreux, elle les rend moindres.
Par décision de Zeus, Hécate continue à rôder dans le monde, parmi nous. Et tout peut arriver sans qu'on puisse le prévoir. L'organisation du monde est désormais achevée. Zeus a su y inclure une part irrationnelle, imprévisible, bonne ou mauvaise, comme Hécate le voudra. Et voilà, tout est bien posé, structuré, dans un équilibre parfait, dominé et garanti par Zeus, le patron. L'Olympe est doté d'une constitution politique solide, il est en état de marche. Mais est-ce que ça marche ? Est-ce que le dieu souverain peut maintenir cet équilibre ? Est-ce que le monde des dieux est à l'abri de crises ravageuses ? Eh bien non, pas vraiment. Faire de la politique ne consiste pas seulement à respecter une règle, à appliquer une constitution et des lois, mais à affronter des situations nouvelles, hors normes, des tempêtes, et donc à s'étonner soi-même, si on est le chef. Zeus devra en passer par là. Zeus agit. Comme il est le plus fort, il triomphe, toujours, mais à quel prix ? Il en souffre, parfois il en pleure. C'est sans doute ce qu'il y a de plus intéressant dans ces histoires. Dans la plus grande affaire mondiale qu'il ait eu à gérer, la guerre de Troie, Zeus arrive à ce qu'il voulait, l'effondrement de Troie. Mais au cours de cette longue action, 10 ans, il est troublé, instable. Il ne respecte pas ses propres règles. Les autres dieux ne le comprennent plus, ne le reconnaissent pas et se révoltent. Il paraît incohérent. Tantôt, il rit au spectacle grandiose des batailles frénétiques entre Grecs et Troyens. Tantôt, il pleure devant ce qui arrive. Or, tout cela, ou presque, a été provoqué par lui. Un jour, il pleure quand il voit que son fils Sarpédon, né d'une femme mortelle, Laodamie, va se faire tuer par Patrocle, l'ami d'Achille. Sarpédon combat du côté des Troyens. Il est un prince magnifique, fabuleux, roi du pays de Lycie, un royaume de lumière, un pays de cocagne. Il y règne avec son cousin Glaucos, le lumineux. Chez eux, en Lycie, Sarpedon et Glaucos vivaient dans l'abondance, dans la gloire et le bonheur. Leur société leur offrait de grandes terres bien grasses à cultiver et des fêtes où ils avaient la première place et de belles viandes. Mais leur destin est de mourir loin de chez eux, sous les remparts de Troie. La mort de Sarpedon approche. Patrocle accumule victoire sur victoire contre les guerriers troyens. Hargneux, il lance son char contre Sarpedon pour l'abattre. Ce duel à mort n'est pas seulement une affaire de bravoure, de gloire. Il a été soigneusement préparé et voulu par Zeus. C'est l'élément d'un plan que Zeus a mis en place il y a longtemps et qui se réalise, pas à pas. Sa réalisation est nécessaire pour que la ville de Troie soit finalement vaincue, comme le veut Zeus depuis le départ. Pour cela, pour ce but final, il sacrifie son fils. Il lui fallait mettre ce prix.
Achille !
Mon roi ! Achille est signalé absent.
Où est-il ?
J'ai envoyé un enfant le prévenir.
Le roi Agamemnon m'envoie. Tout le monde vous attend. C'est vrai ce qu'on raconte sur vous ? Ils disent que votre mère est une déesse immortelle. Et aussi que personne ne peut vous tuer.
Pourquoi est-ce que je porterai un bouclier dans ce cas ?
Mais le Thessalien que vous allez combattre, c'est l'homme le plus grand que j'ai jamais vu. J'aurais trop peur de le combattre.
Alors personne ne se souviendra de ton nom.
Le problème très difficile qui se pose à Zeus est qu'Achille a été bêtement humilié par le roi des Grecs Agamemnon, toujours un peu crétin. Achille s'est retiré sous sa tente, furieux, et refuse de se battre. Les Troyens, en l'absence d'Achille, ne peuvent pas être vaincus, car Achille est le plus fort, le meilleur des Grecs. Or, la défaite des Troyens est ce que Zeus, pour une raison ou pour une autre, on ne sait pas, veut depuis le début. Zeus trouve une solution passablement tordue pour qu'Achille reprenne les armes. Attention, ce n'est pas simple. Ça ne l'était pas pour les Grecs et pas du tout pour Homère. Zeus calcule. Si Patrocle, le grand héros, ami d'Achille, arrive à tuer Sarpedon, Patrocle, enivré par sa victoire, perdra toute prudence. Il fera n'importe quoi et s'aventurera loin des lignes grecques. Et Hector, le grand prince troyen, le fils magnifique de Priam que Zeus chérit, pourra facilement le descendre. Et si Hector tue Patrocle, Achille sera tellement furieux de la mort de son si grand ami qu'il reprendra les armes et fera tout pour le venger. Débordant de fureur, Achille tuera Hector. La ville de Troie sera ainsi privée de son plus grand défenseur et tôt ou tard, elle devra tomber. C'est tordu, mais c'est du Zeus et ça va marcher. Le duel entre Patrocle et Sarpedon va commencer.
Avec ses armes, Sarpedon sauta de son char. Patrocle, de son côté, quand il le vit, bondit hors du sien. Comme des vautours crochus de cerfs et de becs sur une haute pierre se battent à grands cris, ils se lancèrent l'un contre l'autre en hurlant.
Zeus est affligé. Son fils va mourir. Il se demande s'il doit laisser faire. Il pose la question à son épouse Héra. Héra veut à tout prix la victoire des Grecs et donc de Patrocle. Elle lui répond très sèchement que ce fils Sarpedon doit mourir. C'est le destin.
Héra, la souveraine à l'œil de vache, lui répondit.
Très désastreux fils de Cronos, quel propos as-tu tenu ? Un homme, un mortel depuis longtemps voué à son destin, tu veux, à rebours, le délivrer de la mort qui tourmente ?
Si Zeus sauve son fils, ajoute-t-elle, les dieux vont se révolter, la guerre civile va emporter l'Olympe.
Fais-le, mais nous, tous les autres dieux, nous ne t'approuvons pas.
Pour consoler Zeus, Héra lui conseille simplement de préserver le corps de son fils chéri après sa mort, pour qu'il ait des funérailles dignes de lui dans son pays, en Lycie. Zeus fait comme elle dit.
Elle dit cela, et le père des hommes et des dieux ne désobéit pas. Sur le sol, il versa des gouttes de sang en hommage au fils chéri que Patrocle allait lui tuer à Troie au labour profond, loin de sa patrie.
Patrocle tue Sarpedon. Il va se faire tuer peu de temps après par Hector. Le plan de Zeus fonctionne.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
So loud on you, sad but it's true. After all we've been through, I'm so loud on you.
me to hell. Got me under your spell. No matter how hard I try to hide it, the whole world can tell. It just ain't no way. No matter how hard I pray, there ain't nothing I can say that's gonna save us today. I'm sold out on you. It's sad, but it's true. After all we've been through, I'm sold out on you. I don't understand. You got my heart in your hand. I'm done.
Pierre Judet de Lacombe évoque le dieu des dieux, Zeus.
La tristesse de Zeus n'est pas seulement l'apitoiement d'un père pour un fils qui va mourir. Zeus est confronté à sa propre décision. Il avait décidé d'envoyer son fils à la mort. Il avait fixé son destin avant ce jour. Zeus est triste parce que la décision qu'il avait cru devoir prendre par calcul, par stratégie, devient événement, malheur inévitable, destiné. Zeus aurait été libre de ne pas décider avant ce jour de sacrifier son fils, Sarpédon. Quand l'événement arrive, Zeus n'est plus libre. Il devient aussi accablé que le serait un mortel face à son destin. Zeus a décidé de ce que serait la réalité. Il en avait le pouvoir. Mais cette réalité s'impose brutalement à lui. Il en pleure. La tristesse de Zeus est grande aussi le jour où, au lendemain de la mort de Sarpédon et de Patrocle, Hector doit mourir sous les coups d'Achille. Achille est devenu un guerrier sans pitié, féroce, décidé à venger Patros à tout prix et à massacrer Hector. Zeus est triste, parce que les Troyens sont tous chers à son cœur, et parce que parmi les Troyens, Hector est l'être humain qu'il préfère.
Hector, de tous les mortels qui sont en Ilion, était le plus aimé des dieux. Il l'était vraiment de moi, car jamais il n'oubliait les dons qui me sont chers, jamais, à mon égard, un autel n'a manqué du festin bien partagé, n'a manqué de libations et de graisse. Cette part d'honneur est notre lot.
Comme pour Sarpédon, au moment où la mort d'Hector paraît imminente, Zeus s'afflige. Il demande au dieu qui avec lui contemple la scène ce qu'il doit faire.
Hélas, l'homme bien-aimé, je le vois de mes yeux poursuivi autour du rempart. Dans mon cœur, je gémis sur Hector qui fit brûler pour moi tant de cuisses de bœuf sur les crêtes de Lida aux replis nombreux et d'autrefois tout en haut de la ville. Mais aujourd'hui, le divin Achille le poursuit de ses pieds rapides autour de la ville de Priam. Alors, Dieu, examinez et réfléchissez. Le sauverons-nous de la mort ou, maintenant, le ferons-nous, malgré sa noblesse, tuer par Achille ?
Cette fois, c'est Athéna qui lui répond sèchement. Elle dira exactement ce que Héra avait dit à Zeus pour Sarpédon.
Alors, la déesse aux yeux de lumière, Athéna, lui adressa la parole.
Ô Père qui brille par la foudre, Dieu des noires nuées, qu'as-tu dit ? Un homme, un mortel depuis longtemps voué à son destin, tu veux, malgré cela, le délivrer de la mort qui tourmente ? Fais-le, mais nous, tous les autres dieux, nous ne t'approuvons pas.
Zeus cède, encore une fois. Il se résout à la mort d'Hector, mais sa réaction est surprenante. Zeus dit à sa fille bien-aimée, Athéna, qu'il n'a pas été sincère en posant cette question.
En réponse, Zeus, qui rassemble les nuages, lui dit
« Rassure-toi, mon enfant chéri. Là, je n'ai pas parlé en toute sincérité et je veux t'être doux. Agis en suivant ton esprit et ne renonce pas. »
Athéna descend vite sur terre. Elle va aider Achille à tuer Hector. Les deux guerriers, Achille et Hector, ont fait 3 fois le tour de la ville en courant, Achille poursuivant Hector. Lorsqu'ils arrivent pour la 4e fois aux belles fontaines, dans la plaine de Troie, là où ils avaient commencé leur course, fontaine merveilleuse qui rappelle le bonheur fastueux de Troie avant que ne débarquent les Grecs, Hector finalement s'arrête, se retourne et se dit prêt à affronter Achille. Ils sont face à face pour l'assaut. Qui va gagner ? Juste à ce moment, Zeus fait quelque chose de très étonnant. Il déploie une balance en or et pèse les sorts des deux guerriers. Celui dont le sort va descendre et se rapprocher du sol, de la terre, aura perdu. Il disparaîtra dans l'Hadès. Zeus brandit la balance. C'est le sort d'Hector qui s'abaisse. Le dieu Apollon, qui a soutenu Hector pendant toute la guerre, le quitte. Hector va mourir.
Mais lorsqu'ils arrivèrent la 4e fois aux fontaines, alors Zeus déploya les 2 plateaux d'or d'une balance. Dedans, il mit 2 démons de la mort qui fait souffrir longtemps, l'un pour Achille, l'autre pour Hector, maître des chevaux. Il la souleva par le milieu, et le jour du destin d'Hector pencha. Il allait vers l'Hadès. Phoïbos Apollon abandonna Hector.
Pourquoi cette scène ? Pourquoi cette balance ? La mort d'Hector avait été décidée depuis longtemps par Zeus. Hector ne pouvait y échapper. Les interprétations antiques et modernes de cette pesée des sorts d'Achille et d'Hector sont nombreuses. Une grande discussion s'est levée depuis l'Antiquité. Est-ce que Zeus, indécis, a cherché à savoir ce que les destins avaient fixé ? Les destins, à savoir les moires, les parques. Il y aurait donc une autorité supérieure à celle de Zeus. Certains poètes, puis certains philosophes l'ont pensé. Zeus se serait conformé à une nécessité sur laquelle il n'avait pas de pouvoir. Ou, au contraire, est-ce que par sa balance, Zeus aurait simplement manifesté sa propre volonté ? Il resterait alors le chef, le patron. C'est peut-être plus simple et plus profond. Zeus souffre. Il aime Hector. Il a quand même décidé sa mort autrefois, puisque Troie doit tomber. Zeus doit même sourire à sa fille Athéna, qui veut cette destruction de Troie. Zeus est prisonnier de sa propre décision irrévocable. La balance manifeste un choix de Zeus fait dans le passé et qui s'impose à lui. La balance est banalement binaire, vie ou mort d'Achille ou d'Hector. Or, les relations de Zeus avec l'un et l'autre ont été complexes, changeantes, obscures ou amicales et éclatantes, selon que le dieu favorisait l'un ou l'autre héros. Cela fait tout le très long récit de l'Iliade. Mais à la fin, c'est simple, binaire. Parce qu'en fait, ça l'a toujours été. Zeus l'a voulu dès le départ. Il a décidé qu'Achille tuerait Hector. Zeus n'échappe pas à son choix. La balance le met de manière spectaculaire face à un choix qu'il avait fait avant. Le destin qu'elle manifeste n'est pas une force indépendante, supérieure à Zeus, mais la permanence irrévocable de ce choix ancien. La balance manifeste le pouvoir de Zeus. Zeus est bien le patron. Il décide, il fait l'histoire. L'une des grandes forces de ce mythe, tel que le raconte Homère, c'est qu'en faisant l'histoire, Zeus ne la domine pas. Il ne reste pas serein, il est emporté lui aussi par elle. Il doit composer avec lui-même, qui est si changeant. Il doit composer avec les autres dieux, avec les mortels qu'il aime, même s'il doit les mettre à bas. Le mythe chez Homère ne fait pas la leçon, ne moralise pas. Il ne dit pas comment les humains ou même comment les dieux doivent agir. Il analyse, décrit et il raconte. Il dit « D'accord, il y a bien un dieu, sa volonté, derrière tout ça. Mais quel est ce dieu tout-puissant qui fait que le monde est monde, cohérent ?» Homère pose un Zeus double, un Zeus souverain qui veut et qui peut, mais aussi un dieu qui subit ce qu'il veut et qui en est triste. Dire que tout dépend de Zeus, ce n'est alors pas réduire la réalité, ce n'est pas la simplifier, au contraire. C'est faire exploser les extrêmes, les contrastes, la singularité des expériences humaines et aussi divines. C'est leur rendre justice, ne pas les étouffer. La poésie, si elle veut, c'est faire ça.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Léa d'Auvergne et Benoît Marchand. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Julie Garraud et le mixage par Jean-Louis Deloncle. La semaine prochaine, nous parlerons d'Héra, l'épouse de Zeus, la première Wonder Woman. Bonne journée sur France Inter.